Le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest, vous propose 8 milliards de voisins.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Deuxième volet de nos émissions sur la sécurité routière en Afrique. Nous sommes à Marrakech où nous suivons la 4e conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière. L'émission d'hier, disponible d'ailleurs en podcast, était consacrée aux questions de prévention, de respect des lois. Et aujourd'hui, nous allons voir dans quel état sont les routes du continent et quel est le rôle des aménagements dans la sécurité routière. Je pense notamment aux feux tricolores, aux passages piétons, les piétons qui, je le rappelle, sont les principales victimes des accidents de la route avec les motocyclistes. Je pense aussi aux panneaux de limitation de vitesse. Par ailleurs, les routes au béton bitumé, tout neuf, tout lisse, sont-elles vraiment plus sûres? On en discutera. Une certitude, l'Afrique subsaharienne est le seul continent où la mortalité sur les routes est la plus élevée du monde. Et elle continue d'augmenter depuis 10 ans, alors que le trafic explose sur les routes. Je vous présente nos invités. Benacer Boulaïjoul, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans l'émission. Vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière, la NARSA du Maroc, qui est le pilier de la conférence de Marrakech cette semaine. Et donc vous êtes très demandé, c'est logique. Ousmane Gawal Diallo, bonjour monsieur le ministre.
Bonjour.
Vous êtes ministre des Transports de Guinée, porte-parole du gouvernement guinéen. Nicolas Pelletier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du pôle transport de la Banque mondiale. Nathalie Kiavassa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste sécurité routière pour l'Afrique au sein de l'IRAP, c'est le programme international d'évaluation routière qui note les routes de 1 à 5 étoiles.
Oui.
Bon, si moi j'étais présidente, je devais mettre des feux tricolores pour éviter des accidents parce que au vert, les piétons doivent s'arrêter et les voitures doivent passer pour éviter trop d'accidents.
Bon, moi je trouve que les états de la route sont très mauvais. Il y a d'abord les trous dans les routes et je pense que c'est pas normal. Que si j'étais présidente, j'allais faire pour qu'on arrange les routes. Parce que c'est aussi pour ça que les taximans font aussi les accidents.
Il y a souvent des accidents que lorsque les routes ne sont pas bien goudronnées, la moto se soulève lorsqu'il y a une pierre devant, il n'a pas vu. Ça donne souvent des accidents.
Moi, je pense que c'est l'irresponsabilité.
Alors, la vérité sort de la bouche des enfants, c'est bien connu. Témoignage d'élèves d'école primaire à Yaoundé, au Cameroun. Écoutez aussi la comparaison de cet auditeur en Guinée.
Bonjour les voisins et les voisines. Je suis Follet de la Guinée-Conakry. Les chauffeurs ne respectent rien. Certains chauffeurs prennent les sens uniques. En cas d'accident, si les policiers interviennent, ils prennent la voiture et le permis. Pour récupérer, il faut payer en fonction de la gravité. Pour les petits accidents, les policiers font la morale et c'est tout. On ne se sent jamais en sécurité. Dans les endroits où les policiers ne sont pas présents, les gens vont se bagarrer et se faire justice eux-mêmes. À Casablanca, où j'ai habité, je n'ai pas ressenti cette insécurité routière et je n'ai jamais assisté à un accident.
Benacer Boulaïjoul.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière, la NARSA, au Maroc. Comment vous réagissez par rapport à cet auditeur, Faudé, qui s'est senti tellement en sécurité sur vos routes marocaines?
Je ne suis pas sûr que c'est le vrai sentiment qu'on a quand on circule, surtout à Casablanca. C'est vrai qu'effectivement, je ne sais pas, comparativement peut-être à d'autres villes, ça peut être le cas, mais aussi au Maroc, Casablanca, ça reste la ville. Là, on enregistre le plus grand nombre d'accidents de la circulation, parce que c'est la capitale économique, c'est tout à fait normal. Malheureusement, en Afrique, on a toujours essayé de culpabiliser l'usager de la route, c'est-à-dire que si l'usager de la route qui ne respecte pas le feu rouge, c'est l'usager de la route qui roule trop vite, etc., etc.
Mais
ce qui est vrai aussi, mais c'est pas que dans le sens que le comportement de l'usager doit être encadré. Et pour être encadré, moi je pense qu'il y a un certain nombre de leviers sur lesquels il faut agir. Bien sûr, il y a tout ce qui est éducation, communication, sensibilisation, c'est important, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il y a également tout ce qui est contrôle. Donc le contrôle, s'il y a une loi, il faut qu'elle soit respectée. Mais il y a aussi l'infrastructure, parce que quand on a une infrastructure qui répond aux normes, une infrastructure qui communique, une infrastructure qui est indulgente vis-à-vis de l'erreur humaine, une infrastructure qui aide, qui communique avec l'usager, je pense que ça permet d'adopter un comportement type. Et d'ailleurs, si vous prenez le même conducteur dans un pays là où il y a des défaillances en termes d'infrastructure, vous le mettez dans un autre pays où tout est dans l'ordre, il va adopter le même comportement.
Alors, évidemment, on va donner la parole au ministre de Guinée, Ousmane Gawal Diallo. Qu'est-ce que vous pensez du témoignage de cet auditeur, votre compatriote,
d'abord,
sur les routes guinéennes?
Je pense qu'il décrit un phénomène que nous vivons tous. Notre pays, nous avons un immense retard, ça ne se cache pas. L'héritage est très lourd, les défis sont immenses. Tout ce qu'il dit là est quelquefois justifié dans notre pays. Et c'est toute cette urgence qui nous a amené à mettre en place cette agence guinéenne de gestion de la sécurité routière.
Je voudrais qu'on revienne au cas du Maroc, Benacer Bouleyjoul. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'où est parti le Maroc? Parce que quand on regarde les chiffres, le Maroc était au niveau de la Guinée aujourd'hui. C'est-à-dire à peu près à 28 morts pour 100 000 habitants, c'est-à-dire le double de la moyenne mondiale. Ça, c'était là où vous étiez en 2009.
Au Maroc, en fait, le Maroc, je pense que c'est l'un des premiers pays, l'un des rares pays même au niveau mondial, à s'intéresser à cette question de la sécurité routière depuis les années 70. En 1977, le Maroc a créé ce qu'on appelait dans l'OTAN le Comité national de prévention des accidents de la circulation. Et c'était un organe étatique, en fait, qui s'occupait essentiellement de tout ce qui est communication, sensibilisation, mais aussi la réalisation des études de recherche et développement dans le domaine de la sécurité routière. Et dans l'OTAN, on achetait également tout ce qui est équipement de contrôle qu'on mettait à la disposition des corps de contrôle pour faire le contrôle sur la route. En 2014, on a lancé c'est-à-dire un projet de loi qui consistait à créer une agence nationale de la sécurité routière. Et cette agence, en fait, c'est une sorte de mise en œuvre des recommandations des bonnes pratiques au niveau international, mais on est entré en vigueur aujourd'hui, depuis 2020, on est l'Agence nationale de la sécurité routière, et je reviendrai par après.
Vous avez fait toute votre carrière, vous, pratiquement, dans la sécurité routière.
Moi, j'ai fait 3 ans dans un bureau d'études quand j'ai terminé mes études, et après, j'ai intégré cette institution qui s'appelait dans le temps le CMPAC, et j'ai maintenant plus que 26 ans, 27 ans dans le domaine de la sécurité routière.
Quels sont les principaux progrès que vous avez réalisés? Vos statistiques n'ont cessé de baisser, la mortalité sur les routes au Maroc n'a cessé de baisser. En 2021, vous étiez à 2800 tués. Vous visez pour 2026 1900 tués, c'est-à-dire encore une diminution de 50%. En termes d'infrastructure, qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a vraiment participé à écraser les chiffres?
Le Maroc a investi énormément en ce qui concerne l'infrastructure. Moi, je pense que les gens qui ont visité le Maroc durant le début des années, durant les années 90 et bien avant, ils vont constater qu'il y a une grande différence. Alors, avant 2003, on avait pratiquement moins de 500 km d'autoroute. Aujourd'hui, on est à 1800 km d'autoroute. On a développé également ce qu'on appelle les voies express. Aujourd'hui, on est à près de 5000 km de voie express et qui offre pratiquement le même niveau de sécurité que les autoroutes. Et sachant que la vitesse, donc les voies express et les autoroutes, donc ils permettent d'éviter tout ce qui est collision frontale, malheureusement qu'on peut avoir au niveau du réseau routier national.
Vous avez travaillé sur le cas de la Suède, vous avez séjourné en Suède. Est-ce que c'est un pays qui vous a inspiré? Et vous, comment vous avez envie d'inspirer le continent subsaharien?
Alors, la Suède, moi j'ai fait une partie de mes études en Suède, notamment dans le domaine de la sécurité routière. C'est un pays qui est précurseur. Moi je dis que la sécurité routière, c'est un domaine scientifique, c'est un domaine professionnel qui est régi par des normes et il faut les respecter. J'incombe la responsabilité de la sécurité routière à l'État qui doit investir, qui doit adopter un système sûr. Et ce système sûr, moi je pense, qui va permettre d'aider les autres acteurs, notamment pour tout ce qui est communication, sensibilisation. On ne peut pas communiquer, on ne peut pas sensibiliser dans un environnement qui n'est pas crédible. Je ne peux pas demander aux gens de respecter le passage piéton alors qu'il n'y a pas de passage piéton.
Monsieur le ministre Ousmane Gawal Diallo, vous venez d'entendre le chemin parcouru par le Maroc, hein, qui est parti de très loin. La Guinée, selon les données de l'OMS de 2023, la Guinée-Conakry a un taux de mortalité routière de 29 décès pour 100 000 habitants. C'est le double de la moyenne mondiale. Donc ça place mathématiquement votre pays parmi les routes les plus dangereuses du continent en termes d'accidents. Pourquoi vous êtes si loin de la moyenne mondiale?
Vous n'aviez dans la capitale, jusqu'à récemment, pas de panneaux de signalisation, pas de passage piéton marqué, pas de trait continu ou discontinu sur les voies, pas de panneaux de limitation de vitesse. Donc les routes ne parlaient pas et c'est des facteurs de risque importants.
Qu'est-ce que vous attendez de la conférence de Marrakech pour votre pays, alors que la prise de conscience de la sécurité routière semble récente?
D'abord, les acteurs avec lesquels nous sommes venus, c'est de prendre conscience que c'est un défi, mais il est surmontable. Et cela interpelle l'État en premier lieu, l'a noté notre collègue ici, c'est que le gouvernement dirigé par le Premier ministre actuel a pris sa responsabilité, des fonds nouveaux ont été alloués et des moins sont en train d'être mis à la disposition de la GIZER pour qu'ils puissent mettre en œuvre les recommandations et les bonnes pratiques qu'on a tirées un peu partout. Nous faisons des voyages d'études. À côté, la Côte d'Ivoire nous inspire également parce qu'il y a énormément d'évolutions qui sont en train de faire à Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons fait plusieurs voyages d'études là-bas. Des expériences sont tirées, il faut les mettre en pratique. Cela nous oblige aussi à former les acteurs.
Nicolas Pelletier, est-ce que les infrastructures sur le continent subsaharien parviennent à suivre l'augmentation très rapide de l'urbanisation du trafic routier avec l'activité économique?
Il y a une spécificité africaine qui est malheureuse aujourd'hui, qui est que le nombre d'accidents continue de croître. C'est la seule région du monde où on continue d'observer cette croissance. 250 000 morts par an, c'est pas une fatalité, parce que en fait, lorsque...
Le Maroc le démontre,
et pas simplement le Maroc. Il y a un certain nombre de pays africains qui ont investi dans des routes qui remplissent un certain nombre de prérequis en termes de sécurité routière, et on voit des résultats. Je pourrais vous mentionner un programme routier que nous avons financé au Ghana sur 10 ans, où on a vu une baisse de moitié de la mortalité. Alors, par contre, c'est vrai que ce que vous disiez, il y a une corrélation entre le développement économique et la motorisation. Notre estimation à la Banque mondiale, c'est que lorsque le revenu par habitant double, le nombre de voitures augmente de 40%.
Nathalie Kiavassa, quelques exemples peut-être de corridors là en Afrique qui ont des besoins urgents, en quelques mots?
Oui. Bon, pour rebondir sur ce que disait M. Pelletier, en plus de l'augmentation rapide de la motorisation des véhicules, surtout ce qu'on observe en Afrique, c'est une augmentation hyper rapide de la motorisation des deux roues et des motos. Et pendant des décennies, en fait, ce sont des usagers qu'on n'avait pas intégrés dans la conception des infrastructures et qui viennent, notamment en Afrique de l'Ouest, hein, qui viennent vraiment changer la donne.
Ouais. Benacer Belaïjoul, on le voit bien, à Marrakech, il y a énormément de deux roues. Hein.
Oui, c'est vrai que c'est aujourd'hui la catégorie qui nous pose énormément de problèmes. Et ça, c'est une constatation en fait qui est mondiale, mais en tout cas pour le Maroc, c'est depuis, avec le Covid, c'est un phénomène qui a imposé l'usage ou bien le recours aux deux roues. Et aujourd'hui, il représente 40% des tués dans notre pays. Donc aujourd'hui, nous avons une marge de progrès de 40% qu'on peut avoir au niveau de cette catégorie.
Sur les deux roues. Merci Benacer Belaïjoul. On va vous laisser rejoindre la conférence de Marrakech qui a fort besoin de vous et nous allons poursuivre l'émission. Vous restez les uns et les autres avec nous. On va voir dans quel état précisément sont les routes du continent subsaharien, comment financer aussi leurs aménagements et surtout quels sont les travaux qui font vraiment baisser la mortalité sur les routes. On se retrouve juste après cette jeune artiste marocaine, Anna Wassim, chez 8 milliards de voisins.
I'm not afraid to die.
écoutez RFI, 8 milliards de voisins. Nous sommes à Marrakech pour la 4e conférence mondiale ministérielle sur la sécurité routière. Et nous parlons aujourd'hui de l'état des routes, des aménagements comme cause d'accidents de la route. Nous avons reçu énormément de messages exaspérés sur le sujet sur notre compte WhatsApp 33 7 64 45 51 41. Écoutez Josué à Kinshasa. Il témoigne de ce qu'il vient de voir.
Bonjour les voisins, bonjour Emmanuel. Alors je voudrais donner un petit exemple sur la sécurité routière. Juste ce matin, il y avait un bus qui prend les étudiants qui venaient à vive allure et tout. Et il était à quelques millimètres près de ramasser deux véhicules, les motards, les gens à l'arrêt de bus. Tout ça pourquoi ? Parce que les infrastructures routières ne remplissent pas les normes. Il n'y a pas de trottoir où les piétons peuvent marcher paisiblement en sécurité. Il n'y a pas des arrêts de bus où les gens peuvent attendre tranquillement, paisiblement, en toute sécurité. Voyez un peu. Et tout ça, ça fait en sorte que on est exposé, même ceux qui roulent même à côté, les motards et tout ça, tout le monde est exposé, même les marchés pirates qui allaient le long de la route. Les infrastructures sont livrées sans tenir compte des normes.
Bonjour, pour ma part, sur cette question de la sécurité routière en République centrafricaine, je dirais qu'il n'y a aucune prévention qui a été mise en place par le gouvernement. Par exemple, les feux tricolores ou les systèmes de régulation de vitesse, ils n'existent quasiment pas du tout. Il n'existe pas dans le pays. Et en ce qui concerne aussi les chauffeurs de taxi, moto et des bus, qui n'ont même pas vraiment de permis et tout, mais qui circulent, qui causent énormément d'accidents depuis même à ce jour. Moi, personnellement, j'ai failli heurter un enfant, bon, parce qu'il n'y avait pas de bonne passante pour permettre aux piétons de traverser librement et tout. Et vous voyez donc, ça n'existe pas. C'est un sérieux problème à Bangui et tout. Et du coup, il fallait que le gouvernement puisse mettre l'accent dessus. C'était Germain Nicolas Cocoré depuis Bangui. Je vous remercie.
Écoutez aussi Fabi, qui est moniteur d'auto-école à Brazzaville.
L'état de nos routes brazzavilloises est un véritable cimetière aujourd'hui. On peut voir sur beaucoup d'endroits de nos différentes routes, de nids de poules et troubillons par-ci, de marquages au sol dilués par-là, comme on peut voir aussi la présence des eaux stagnantes, sans compter de dodanes trop surélevés, des glissières de sécurité endommagées, par exemple, ou absentes carrément, des panneaux de signalisation illisibles ou carrément absentes. Il faut aussi signaler la présence aux abords de nos routes d'une végétation abondante qui barre la bonne vision de la signalisation. Sans exagérer, on peut affirmer aujourd'hui que nos routes sont muettes et donc un véritable cimetière à ciel ouvert.
Ousmane Gawal Diallo, vous le disiez, hein, les routes ne parlent pas en Guinée-Conakry. Nathalie Kiavassa, les routes muettes, on les retrouve partout sur le continent africain. On a entendu plusieurs témoignages de différents pays.
Malheureusement, on les retrouve partout. Il faut bien comprendre que même si au départ, lors de la reconstruction ou de la réhabilitation de la route, des efforts ont été faits, certains éléments de sécurité routière, et vous voyez que vos auditeurs le comprennent très bien, comme le marquage, la signalisation, les glissières de sécurité, les feux, le phasage des feux, sont parmi les premiers éléments à disparaître. Et c'est là peut-être que sur l'entretien routier, on a une grosse défaillance. Et donc, je me souviens aussi des premiers témoignages de cet enfant qui disait, mais il faut des feux, il faut des passages piétons, parce que les piétons passent au vert. En fait, elle a reçu une éducation à la sécurité routière. Le problème, c'est que ça tient encore du théorique, parce qu'elle ne peut pas le mettre en pratique. Et notre rôle, ça serait de faire en sorte que, justement, cette infrastructure, et nous en sommes tous conscients aujourd'hui, inclut les éléments qui permettent de ramener ce niveau de sécurité et d'avoir un comportement approprié des usagers.
C'est ça. Alors, il y a un problème d'entretien, mais il y a aussi un problème au moment de la conception. Cet auditeur soulignait les dodanes qui sont mal dimensionnés.
Oui, il y a un problème généralisé.
Vous les appelez comment, vous, les dodanes mal dimensionnés?
Les dos de chameau, je les appelle. On a beaucoup de dos de chameau. Ils ont aussi dit que les caniveaux sont sous-dimensionnés, donc ils se bougent très vite, on a des eaux stagnantes. Mais il y a un certain nombre de paramètres de conception qui pourraient nous paraître basiques et évidents, même en tant qu'usagers, qui malheureusement arrivent encore à passer entre les mailles du filet. Pourtant, on a fait beaucoup d'efforts, que ce soit la Banque mondiale, d'autres bailleurs de fonds, pour mettre en place des procédures qu'on a appelées l'audit de sécurité routière. Depuis les 15 dernières années, je crois que ça a été notre grosse bataille. Mais comme on dit, Nous, les partenaires, bon, pour l'AIRAB, nous sommes un partenaire technique, mais les partenaires techniques et financiers, nous travaillons ensemble, nous sommes tous d'accord, mais il faut aussi que les gouvernements, les municipalités, localement, puissent intégrer ces procédures et ces mesures et ces bonnes pratiques dans leur code à eux.
Aujourd'hui, en Afrique, il y a quoi ? Il y a plus de 80% des infrastructures qui n'ont pas de passage piéton, c'est à peu près le chiffre ?
C'est même plus que ça.
C'est même plus.
Nous, sur les évaluations AIRAB que nous avons réalisées sur 50 000 km de route en Afrique, le taux de passage piéton, là où il devrait y en avoir, c'est 2%.
Sur quels critères, puisque l'IRAP donc, distribue des étoiles aux routes du monde entier, sur quels critères vous évaluez les routes, vous distribuez les étoiles de une étoile pour les routes les plus basses en termes d'infrastructure à 5 étoiles, la plus belle route. Et comment se situe l'Afrique dans ces distributions d'étoiles?
Il y a 56 attributs routiers que nous codons. S'empare de l'abord de la route, l'accotement, la chaussée, y compris la qualité, bien sûr. Les marquages, les trottoirs, les passages piétons, les virages, et comme ça, les balises, la visibilité, la lisibilité de nuit, de jour, donc 56 critères et sous-critères, les vitesses, que ce soit la vitesse théorique, c'est-à-dire la vitesse limite, mais aussi la vitesse réelle, et le flux de véhicules, mais aussi le flux de piétons, de cyclistes, de motocyclistes. Et souvent, on se rend compte que dans les études routières, dans les études préliminaires à un design routier, il y a des comptages de trafic. Ce sont des comptages de trafic de véhicules. Et nous essayons par cette méthode de ramener aussi un comptage de piétons. Il faut savoir qu'en Afrique, plus de 50% des déplacements quotidiens se font encore à pied, en vélo et autres modes de transport. Et que si on n'intègre pas ces données dès le départ, dès la conception, on risque vraiment de passer à côté du design.
Ouais, alors l'augmentation
donc c'est ce que le classement par étoile essaie de faire. On génère un classement par étoile par tronçon de 100 mètres. Donc vous voyez, c'est assez détaillé. 56 critères tous les 100 mètres pour 4 catégories d'usagers, les occupants des véhicules, les piétons, les vélos et les motocyclettes.
Dans l'ensemble, en moyenne, les routes acceptables, ce sont des routes 3 étoiles minimum. Mm. Quel est le pourcentage de routes 3 étoiles en Afrique subsaharienne, par exemple ?
Sur les évaluations que nous avons menées qui concernent 50 000 km dans 13 pays, pour les occupants de véhicules, on est à peu près à un quart.
Un quart
mais
de route acceptable.
Mais aux piétons et aux vélos, on est à moins de 10%.
On parlait de l'augmentation du trafic routier et du trafic de piétons. C'est le cas de la Guinée-Conakry. Conakry est une ville qui s'étend extrêmement vite. Il y a le développement économique, notamment dû au secteur des mines, avec une croissance d'activité économique, démographique également. Quelles répercussions sur la route, monsieur le ministre, Ousmane Gawal Diallo, et quelles répercussions et quels besoins immédiats sur les infrastructures, et comment allez-vous faire?
Alors, à la prise de responsabilité en 2021, le constat était là. Nos routes tuées ne parlaient pas. Si vous arrivez à Conakry 3 ans après, le phénomène a changé. Les objets qui obstruaient la voirie, le bord de route, tout a été dégagé, réaménagé, des parkings.
C'est pas ce que disait l'auditeur en ouverture d'émission à Conakry, mais bon.
C'est pas tout Conakry. On est parti de Kaloum, du point zéro. Donc Kaloum aujourd'hui, toutes les voiries ont des panneaux de signalisation, sont refaites. Vous ne verrez plus aucun nid de poule à l'intérieur de la capitale Conakry. Et tous les objets, que ce soit des arbres, des boutiques qui étaient le commerce informel qui se développait et envahissait les voiries, notamment à côté des marchés, tout ça, des marchés qui étaient devenus des centres très grands, mais qui étaient des structures informelles, ont été dégagés. Donc aujourd'hui, Kaloum a repris vraiment les normes. Et les entreprises qui ont eu les marchés, qui ont des garanties décennales, qui n'avaient pas fait les points de signalisation, ont été rappelés. Donc les routes de Kaloum parlent de nouveau et ça s'étend progressivement. Maintenant, on est à la deuxième commune de Dixine et de Kaloum et des nouvelles voies sont en train d'être ouvertes.
Qu'en est-il des régions minières, très éloignées de la capitale?
Les régions minières, c'est catastrophique.
Vous avez la pression des miniers pour améliorer les routes.
Y a pas que
pas
les...
seulement pour le transport de marchandises, d'ailleurs.
C'est catastrophique. Pourquoi? Parce que la mine, notamment l'or, amène de l'économie, du pouvoir d'achat. Le premier instrument de quelqu'un qui ramasse de l'or, c'est la moto. Vous avez une ville comme Siguiri, qui a à peu près 1 million d'habitants normalement, où il y a 2 millions de personnes qui vivent et chacun a une moto. Chacun a une moto et chacun se fraye son chemin. Et ces populations sont arrivées à moins de 3-4 ans. Kounsitel, qui est un petit village à côté de Gawal, c'est une sous-préfecture qui avait 3 000 habitants. 5 ans en arrière, aujourd'hui ils sont à 700 000 habitants. Mmh. Avec tout ce que ça compte comme moto, comme risque, comme accident. Donc la démographie rapide est un problème. Et puis la disparition dans les années des moyens de transport public, hein, la compagnie de transport public de Conakry a disparu. Le train qui faisait le transport de passagers de la banlieue vers la capitale avait aussi disparu. Et ça laissait la voie aux mototaxis qui ont envahi la rue.
Toujours en Guinée-Conakry, sous votre contrôle, Nathalie Kiavassa, la Nationale 1 qui relie le port de Conakry à quasiment la frontière libérienne, hein, et qui traverse évidemment les régions minières. Dans quel état est cette Nationale 1 en Guinée-Conakry ?
Oui, c'est typiquement la route qui est à une étoile pour tous les usagers, mais justement, excellence...
Donc une route à une étoile, c'est une route ultra dangereuse.
C'est une route ultra dangereuse. Parce que déjà, quand on dit 3 étoiles minimum, il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans un truc chic et extraterrestre, on est quand même dans du basique encore. Mais pour la Nationale 1, justement, l'entreprise minière Rio Tinto nous a contactés, on a échangé à plusieurs reprises. J'étais moi-même à Conakry en juillet dernier avec l'Organisation Ouest-Africaine de la Sécurité Routière. Et nous avons commencé à mettre en place ensemble un partenariat pour pouvoir évaluer et faire un plan de rehaussement de la sécurité sur ces axes.
Toutes ces discussions posent la question de fond, le financement pour refaire des routes, créer de nouvelles routes. Nicolas Pelletier de la Banque mondiale, investir dans la sécurité routière, ça coûte très cher. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ?
Ça vaut très cher, c'est vrai. Nos estimations, c'est qu'atteindre l'objectif de diminution de moitié du nombre d'accidents dans le monde, ça coûte entre 400 et 800 millions de dollars sur une décennie. Donc c'est considérable, les ressources publiques sont limitées, et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de réflexions aussi pour voir comment mobiliser des financements privés. Et d'ailleurs, à Marrakech, il y avait un certain nombre de panels où il y avait des discussions très intéressantes sur comment mobiliser des financements privés pour la sécurité routière. Alors, est-ce que ça vaut le coup ? Absolument. Le coût d'une vie est important. Les estimations, c'est que le coût économique, c'est en moyenne 3% du PIB pour un pays, mais ça varie entre 2 et 6%. Donc pour certains pays, c'est beaucoup plus. Et c'est intéressant parce que des fois, le point d'entrée d'un dialogue sur la sécurité routière, c'est pas le ministère des Transports, c'est le ministre des Finances qui vient nous voir. On a des exemples comme le Népal, par exemple, où le dialogue sur la sécurité routière a commencé d'une réflexion économique. Donc au-delà du drame humain, il y a aussi cet aspect économique et ça fait parfaitement sens d'investir dans la sécurité routière.
Sur quels critères la Banque mondiale finance des infrastructures routières ?
On reçoit beaucoup de demandes dans le domaine des routes. Pour vous donner un ordre de grandeur, notre portefeuille total d'investissement dans les transports, c'est 35 milliards de dollars, dont à peu près la moitié dans le domaine routier. En Afrique, c'est particulièrement élevé parce qu'il y a des enjeux majeurs de connectivité. Ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau routier africain, c'est à peu près 2 millions de kilomètres. Il n'y a que 30% de ces routes qui sont revêtues. Donc il y a beaucoup à faire. Une institution donc, comme la Banque mondiale ne peut financer qu'une petite fraction de ces routes. Et c'est pour ça qu'on essaye, chaque fois que c'est possible, non seulement de s'assurer que les investissements que nous finançons sont des investissements sûrs, mais aussi d'engager un dialogue avec le gouvernement sur les standards de construction routière.
Vous restez avec nous, on va y revenir. On va aussi évoquer les routes très rapides ou les routes lentes, finalement, où se produit l'insécurité routière. On y revient dans quelques instants.
Écoute par exemple aujourd'hui. D'accord. Ce que j'ai dit là, c'est important que je...
8 milliards de voisins, on est ensemble.
8 milliards de voisins, c'est maintenant.
Milliards de voisins, vous écoutez RFI. Nous évoquons la sécurité routière à l'occasion de la conférence de Marrakech, la 4e conférence mondiale ministérielle qui se déroule donc à Marrakech au Maroc. On parle des infrastructures. Écoutez tout de suite le témoignage de ce voisin. Il est dans le nord du Cameroun.
Bonjour 8 milliards de voisins et de voisines. Moi c'est Ousmane Chérou, je suis à Garoua dans le nord Cameroun. Garoua qui avait abrité la dernière CAN qui s'était passée au Cameroun. Et quelques mois avant la CAN, il y avait eu quelques aménagements sur les routes qui menaient au stade, qui menaient au centre de santé. Là, c'était un peu bien, mais actuellement, là où je vous parle, ces routes-là ont commencé à se dégrader parce que les travaux n'étaient pas à 100% bien faits. Mais maintenant, les routes qui préoccupent vraiment les gens, c'est la nationale numéro 1. Je vous assure, pour faire 200 quelques kilomètres de Garoua en Ngaoundéré, vous êtes obligé de faire 10 heures de route. Vous voyez, il n'y a pratiquement pas de route. Et j'ai aussi été à Kousséri. Pour quitter Maroua, vous êtes obligé de quitter à 5 heures du matin. Pendant la saison pluvieuse, les gens passaient même la nuit en route, tellement qu'il n'y a pas de route. Et il y a de la boue, il y a de tout. Donc, l'état des routes ici chez moi, vraiment, c'est la merde, quoi. Ok, bonne journée, bye bye.
Voilà, témoignage sans appel de cet auditeur. Nathalie Chiavassa, vous, en tant que spécialiste de la sécurité routière pour l'Afrique au sein de l'IRAP, c'est le programme international d'évaluation routière, quand on a une route qui est entièrement refaite, revêtue donc de béton bituminé, c'est le terme, hein, avec de la signalétique, avec des aménagements, des glissières de sécurité, mathématiquement, la vitesse augmente, on roule plus vite.
Oui.
Hein, surtout si on a une bonne voiture.
Oui.
Est-ce que la sécurité augmente aussi?
Non. Si la vitesse augmente, alors bon, il y a des modèles mathématiques hein, qui décrivent bien que pour chaque 5% d'augmentation de la vitesse, on est à 20% d'augmentation du nombre de fatalités. C'est ça un peu, si vous voulez, le dilemme qu'on a actuellement avec les corridors régionaux qu'on appelle... Hein, qui connectent des ports, des villes à d'autres pays et dont dépendent beaucoup de pays africains sur leur économie. Il est très important que cette connectivité se fasse. On a besoin du
avec
kilo
des routes
de
modernes.
Sucre et du kilo de riz à bas prix à la population finale. Mais du coup, cette connectivité avec une bonne route, avec un tapis de béton bitumineux, aboutit à son mauvais côté qui est des vitesses excessives souvent et donc une augmentation du niveau de gravité des accidents. C'est-à-dire que pour un même nombre d'accidents au total, vous voyez que le nombre de décès a tendance à augmenter. Un des défis de la sécurité routière, c'est que lorsqu'on parvient à éliminer certains risques, d'autres apparaissent. C'est-à-dire on élimine les nids de poules, on élimine peut-être la fatigue des conducteurs, parce que quand vous passez 10 heures sur une route et que vous conduisez un poids lourd, vous êtes forcément très fatigué, vous risquez une sortie de route au premier virage. On va peut-être éliminer ces risques-là, mais évidemment que d'autres apparaissent et on doit définir des infrastructures qui vont limiter les nouveaux risques qui pourraient apparaître. Par exemple, des dodanes mal dimensionnées peuvent être un risque aussi.
Il nous parlait aussi, cet auditeur, des routes aux abords des stades de la CAN qui s'est tenue au Cameroun en 2021. Donc on voit bien qu'en 4 ans, tout s'est dégradé. Ça pose à la fois la question de la qualité des routes et de leur entretien, ce que vous avez évoqué, hein, Nicolas Pelletier, pour la Banque mondiale. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, monsieur le ministre, Ousmane Gawal Diallo?
Alors, une des missions de l'Agence guinéenne de sécurité routière, c'est d'identifier les points de risque. Une route rapide, chez nous, c'est clair, on a une corrélation entre des routes bitumées et l'augmentation des accidents, notamment les accidents frontaux. Ça, c'est systématique. Dès qu'une route est bitumée, les risques augmentent parce que toutes les mesures ne sont pas prises. On a beaucoup d'animaux en divagation qui augmentent le risque. La circulation est plus rapide. Mais qu'est-ce que nous faisons depuis 2 ans? C'est d'identifier toutes les zones à risque. Souvent, c'est parce que le devant n'est pas suffisamment dégagé. Souvent, c'est un virage qui est mal dimensionné. Souvent, la route est trop droite et très longtemps, qui peut aussi occasionner des excès de vitesse pas possibles. Donc, il y a énormément...
Voire une somnolence des conducteurs.
Exact. Donc, il y a des choses qui font. Et lorsque les routes ne sont pas du tout étoilées, il y a en ce moment-là, les risques d'accidents par collision sont très, très limités. La route, plus elle est mauvaise, moins il y a d'accidents liés à ça après.
Mais il y a plus d'accidents avec les piétons, notamment.
En fait, les accidents avec les piétons, c'est dans l'urbain.
Le périurbain.
L'urbain. Et souvent le périurbain, parce que là, il y a des routes bitumées. Oui. Maintenant, l'autre facteur, c'est que quand nos routes ont été conçues, toutes les mesures de sécurité routière n'ont pas été accompagnées ou par la mauvaise implication des autorités. On fait que ça passe dans la poche de la corruption qui fait qu'on néglige le marquage des voiries, on néglige les dodanes. Et les dodanes qui poussent et qui ont des dimensions de chameaux, c'est parce que souvent c'est des lieux où il y a eu un accident et les populations elles-mêmes font ce type de dodanes pour prévenir la vitesse, notamment quand ils traversent un village.
Alors justement, monsieur le ministre, puisque vous parlez de corruption, vous êtes ministre des Transports de Guinée, vous êtes porte-parole du gouvernement, ça concerne aussi beaucoup d'autres pays du continent subsaharien. Je voudrais qu'on parle des camions. Les routes se détériorent beaucoup plus vite en Afrique que partout ailleurs dans le monde à cause du poids des camions. S'ajoutent bien sûr les conditions climatiques. Ça crée des nids de poules, ça crée des ornières. Qu'en est-il du contrôle du poids à l'essieu qui normalement doit avoir lieu partout? On devrait avoir des stations de contrôle de poids à l'essieu pour les poids lourds.
Alors, le pesage des camions, c'est un phénomène qui n'existe pas encore chez nous. Ça fait que c'est des mesures administratives qui limitent à 15 tonnes l'essieu pour les marchandises qui sont chargées depuis les unités industrielles. Donc quand vous sortez d'une usine de ciment, vous sortez d'une usine, là on peut limiter. Mais les marchandises qui rentrent, parce que chargées dans les villages et tout, on n'a aucun moyen pour l'instant de le faire, même si de plus en plus la gendarmerie en rase campagne veille
c'est,
à cela.
C'est fâcheux quand même dans un pays où le secteur minier se développe à vitesse grand V, et donc il va y avoir énormément de camions qui vont dégrader des routes qui sont à peine terminées.
D'ailleurs, cette nationale 1, c'est plus que 2000 camions qui traversent un village tous les jours. Mais des camions dont personne ne connaît le tonnage. Et bien sûr, une route n'a jamais 5 ans ou 10 ans sur cet endroit-là. Elle se dégrade à une vitesse extraordinaire. C'est d'où l'idée aujourd'hui, c'est d'en faire une autoroute d'abord, parce que ça réduirait les collisions, et de mettre des péages et des pesages à l'entrée.
Quand il y a des stations de pesage, bien souvent, il suffit d'un billet glissé aux autorités policières pour que le camion puisse repartir alors qu'il est trop chargé. Et donc, pour le chauffeur de camion, il faut aussi charger un maximum son camion pour se rattraper des dépenses et de l'argent qui est lâché au barrage policier non légitime. Je pense à ce fameux corridor sur le golfe de Guinée, Lagos, Abidjan, par exemple, Nathalie Kérassa.
Abidjan, Lagos, oui, tout à fait.
Donc c'est le serpent qui se mord la queue.
Tout à fait. Et c'est un des éléments majeurs qui, jusqu'à présent, freine la lutte contre la charge à l'essieu, qu'on appelle. Et c'est pour ça qu'un grand nombre de pays aussi ont beau peser sur la charge à l'essieu, finalement se retrouvent à verbaliser uniquement sur le poids total en charge. Et seulement le problème, ce qui dégrade la route, c'est la charge sur l'essieu et pas forcément le poids total en charge.
Nicolas Pelletier, aujourd'hui les routes sont majoritairement construites par des entreprises chinoises. Qu'est-ce qui fait que les routes se dégradent si vite? Elles sont mal construites au départ? Elles sont mal financées? Le montage financier n'est pas correct? Ou il y a trop de camions qui ne sont pas contrôlés?
Écoutez, je pense que l'utilisation de la route est aujourd'hui un des facteurs principaux de la détérioration accélérée de ces infrastructures. Et les choses ne vont pas s'améliorer, parce qu'avec le changement climatique, ce qu'on sait, c'est que les infrastructures routières vont être soumises à des stress de plus en plus élevés. Il va falloir réparer les routes plus souvent. Et notre estimation, c'est que dans la décennie à venir, le coût de l'entretien routier va tripler. Et alors ça pose toute une série de questions, parce que l'entretien routier est aujourd'hui sous-financé. Il est financé par des fonds routiers qui ont été établis par de nombreux pays africains, qui sont financés par une taxe sur le carburant. C'est toujours politiquement sensible d'augmenter le prix du carburant. Et donc le financement de l'entretien est un sujet aujourd'hui difficile et qui, à l'avenir, va le devenir de plus en plus. Et donc il faut intégrer tous ces paramètres. Il y a le contrôle de la charge à l'essieu.
Et lutter contre une forme de gaspillage, finalement, quand les routes sont financées, qu'elles ne durent que 8 ans alors qu'elles pourraient durer 20 ans.
Tout à fait. Le cycle de vie d'une route bien entretenue, ça peut être 15-20 ans, alors que ce sont des routes qui peuvent disparaître en quelques années si elles ne sont pas entretenues. Tous les ingénieurs routiers vous le diront, s'il y a $1 à investir aujourd'hui dans le domaine des routes, il faut d'abord le mettre dans l'entretien.
Ousmane Gawal Diallo, ça fait 3 ans maintenant que les militaires sont au pouvoir en Guinée-Conakry, avec des urgences comme la vie chère, il y a aussi des problèmes de sécurité publique pour les opposants. Est-ce que l'état des routes, c'est dans le fond, malgré toutes les réalités que vous avez décrites, c'est un vrai sujet pour le gouvernement dont vous êtes le porte-parole?
Oui, il y a eu une forte amélioration. On a livré à début d'année 1000 km de routes bitumées depuis 3 ans. Et toutes les villes aujourd'hui, il y a des projets de bitumage des villes, de toutes les préfectures du pays. Donc les livraisons sont attendues au mois de juin prochain. Donc le minimum, c'est le centre urbain des villas, c'est entre 15 et 20 km. Ça, ça a été lancé il y a 2 ans. Donc les livraisons seront attendues à partir du mois de juin prochain. Donc ça, en plus de la salubrité que cela ramène, ça favorise quand même la circulation dans ces endroits-là. Et il y a des projets d'envergure pour faire en sorte que toutes les routes nationales retrouvent de la forme lorsqu'elles sont suffisamment dégradées ou qu'elles soient faites. La route nationale numéro 1 va se prolonger en autoroute jusqu'à Gawal et qui relie la Guinée à Koundara. C'est une des routes les plus utilisées parce que la douane de Koundara, c'est la deuxième source de recettes de l'État après le port de Conakry. Et donc, il faut en faire une autoroute qui va de Koundara donc vers la Casamance, jusqu' vers Tambacounda, jusqu'à Conakry, en autoroute.
Comment vous financez tous ces grands travaux d'infrastructure ?
Alors, les recettes minières servent aussi à financer ces voies-là, puisque l'objectif du chef de l'État, c'est de faire en sorte que l'économie qui est générée par l'exploitation minière serve à créer d'abord des infrastructures, mais à aussi développer les autres infrastructures de santé, d'éducation, d'agriculture et la voie.
Nathalie Kiavassa, peut-être un dernier mot sur vos recommandations en tant qu'institut, d'ailleurs, qui est financé par des fonds privés, il faut le dire, hein, avec des financements qui sont pas toujours très sécurisés, mais qui participent donc à noter les routes et à faire des recommandations très techniques sur la qualité des routes en Afrique.
Je crois que c'est tout le sens de cette réunion à Marrakech. On s'engage pour la vie. On a construit pendant des décennies des routes pour des véhicules et des marchandises. On a tous conscience aujourd'hui qu'on a commencé à construire des routes pour la population. La population conduit, la population marche, etc. etc. Moi, j'aimerais voir davantage de soucis pour les corridors régionaux qui traversent des villes, des villages, des hameaux, le long desquels aussi, par un état de fait, la majorité des écoles sont construites. Il faut qu'on commence à réfléchir comment sécuriser, parce que quand on fait une deux fois deux voies qui traversent un village, on coupe le village en deux, forcément on va tuer des piétons. Il n'y a pas d'autre conclusion possible.
Nicolas Pelletier de la Banque mondiale, est-ce qu'on s'oriente dans l'état actuel de la géopolitique vers de nouvelles stratégies des grandes puissances, des États-Unis, de la Chine, pour financer ou pas le développement des infrastructures ? Est-ce qu'on est à un tournant là ?
Bah écoutez, la situation macroéconomique de beaucoup de pays africains est compliquée. Les ressources sont limitées, le niveau d'endettement est élevé. Les investissements dans les infrastructures sont difficiles à financer. Et c'est pour ça que lorsqu'il faut prioriser, le financement de l'entretien est sans doute la première chose à regarder. Et puis par ailleurs, il y a des outils aussi qui permettent d'identifier les routes et les corridors qui peuvent avoir l'impact en termes de développement le plus élevé. Nous avons récemment développé des outils de modélisation pour regarder les questions de sécurité alimentaire. Et c'est assez intéressant parce que on sait aujourd'hui identifier quelles sont les routes qui peuvent permettre d'acheminer des intrants qui sont essentiels pour l'activité agricole, comme les engrais. Nous savons quelles sont les routes qui sont importantes pour augmenter la productivité agricole. Nous savons quelles sont les routes qui sont importantes pour que les pays africains eux-mêmes échangent et que les zones où il y a des surplus agricoles puissent nourrir les zones où il y a des déficits. Donc voilà, je pense que c'est le moment, lorsque les ressources sont limitées, d'utiliser un peu ces outils qui permettent d'identifier les infrastructures les plus importantes. Ouais.
Merci à vous tous. Merci Nicolas Pelletier de la Banque mondiale. Merci Monsieur le ministre Ousmane Gawal Diallo, ministre des Transports de Guinée, porte-parole du gouvernement. Merci Nathalie Kiavassa de l'IRAP, le programme international d'évaluation routière. Et puis merci aussi à Benacer Boulaïjoul, qui était en première partie d'émission, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière au Maroc, la NARSA. N'oubliez pas aussi, les voisins, que vous pouvez réécouter nos deux émissions sur la sécurité routière en Afrique en podcast sur l'appli RFI Pure Radio. Retrouvez aussi nos vidéos à Marrakech sur Instagram, Facebook, WhatsApp channel. Nous quittons Marrakech avec l'artiste marocain Taha Nouri et la tradition poétique populaire du Maloun.
صغى المحاني دواك ما كاين غير عند طبيب القلوب ورشيت عند طبيب القلب والشرايين نشوف واش قلبي نقصو الفيتامين فحصني لقاه كيضرب في 180 قلي واش هذا قلب ولا قروط قولوا لها داتي محمومة رانا مريض مرضى مسمومة بلغوا لها أنا سلحومة بالليل حب كي ضيع حكومة أنا مريض أجي داوي
L'équipe Juliette Brault, Romain Dubrac à Marrakech, Delphine Cachin, Thibaut Mata à Paris. Nos émissions sont toujours disponibles en podcast et demain c'est Diarra Ndiaye qui présentera l'émission de Paris à l'occasion du Salon international de l'agriculture. Quel apport des femmes au secteur agricole en Afrique ? Dans quelques instants, le journal sur RFI.